J'aimerais lire le reste du chapitre 10 de Hébreux, à partir du verset 19, c'est la suite de l'introduction à la Sainte Cène. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé ce digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin que, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'Épître n'est pas signée. On ne sait pas exactement qui a écrit ce livre, s'adresse à des gens qui connaissent l'Ancienne Alliance. Vous avez remarqué tout à l'heure l'explication par rapport au sacrifice des taureaux et ainsi de suite. Donc, il s'est adressé aux judéo-chrétiens, aux juifs convertis. Mais il a beaucoup à nous dire. Il démontre qu'il est impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte le péché. Vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est le sacrifice du Christ qui seul est efficace pour nous laver de nos péchés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. On ne peut pas refaire le sacrifice. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau, lavés par le sang de Christ, la barrière qui fermait la route qui empêchait le passage est comblé. Il est question de... Il a ouvert la route nouvelle. Hein. J'ai travaillé à la route. Et donc, quand on ouvre une nouvelle voie, c'est quelque chose de quand on est le premier à emprunter cette voie, c'est quelque chose d'assez impressionnant. La route nouvelle et vivante invite à s'y engager, car la voie est libre, s'y engager en toute confiance. Les blocs de béton qu'on met parfois sur la route pour empêcher, sont enlevées. Les barrières sont enlevées, la barrière est levée. Et s'il y a une tranchée qui séparait de la nouvelle route, Jésus a enlevé tout ça. C'est une image. La voie est libre. La route nouvelle et vivante invite à s'y engager en toute confiance. C'est sécurisé parce que c'est Dieu qui a ouvert, c'est Jésus qui a ouvert cette route. Direction, le trône de la grâce. Ça, c'est l'objectif de cette route. Avancer avec un cœur sincère. Ça, je reprends des termes que j'ai lus tout à l'heure. Et comme nous chantons parfois, « Tel que je suis, sans rien à moi, c'est Jésus qui a tout ordonné et qui m'a libéré. » Pas besoin d'artifice, pas besoin d'embellir mon image, de frimer. Il me connaît du fond de mon être. Il est question de dans la plénitude de la foi, nous pouvons croire sans douter que son plan pour ma cause, pour ma course est parfait. Le chemin est ouvert. Il m'aime, il m'a racheté, je suis son enfant et mon avenir est dans sa main. Il est question d'un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ce qui est confessé est purifié. On pourrait recommencer chaque fois, est-ce que c'est vrai? Mais ça, c'est la foi. Ce qui a été confessé devant Dieu, parfois il faut l'aide d'une personne, un témoin, mais ce qui a été confessé est lavé et purifié, lavé d'une eau pure, il est question ici. Alors, il est question de la profession de notre espérance. Comment professer ce que je crois? Je peux dire « j'étais perdu, il m'a sauvé ». Il n'y a que le nom de Jésus, aucun autre, par lequel je puis être sauvé. Ça, c'est la confession de base, toute simple. Si quelqu'un me demande « quelle est mon espérance, n'est-ce pas cela ?»« J'étais perdu et c'est lui qui m'a sauvé. Je ne me suis pas amélioré. Il m'a arraché de ma perdition. Je suis son enfant, passé de la mort à la vie. » Et pour retenir fermement la profession de notre espérance, il nous faut découvrir le cœur de Dieu, le cœur de notre Père. Par la lecture, par l'étude de sa parole, parce que sa parole, c'est la révélation de Dieu. Plus nous lisons, plus nous découvrons de facettes de notre Dieu et aussi de sa puissance. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Sinon, nous avons juste quelques clichés. Il faut approfondir cela. Nous pouvons expérimenter sa fidélité dans le quotidien si nous soignons notre relation avec lui, par la prière et la méditation de sa parole. Et il nous faut prendre ce temps. C'est tellement important. Alors, jusqu'à présent, dans ce passage, l'exhortation de l'auteur semblait s'adresser à des individus, chacun séparément. Ça, c'est un chemin que nous pouvons prendre ensemble. Individuellement. Chacun pouvait voir, entendre les conseils pour sa marche personnelle. Les invitations que nous avons lues, c'est chacun peut les vivre seul. À partir du verset 24, il n'y a aucune ambiguïté. Veillons les uns sur les autres. Là, c'est le groupe. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter. Alors, nous exciter, pas être dans l'excitation, être stimulé. Le Seigneur a prévu une assemblée, une communauté, l'Église, pour pouvoir vivre et progresser dans la foi. L'assemblée permet d'exercer la foi. Au sein de l'Église, nous n'avons pas besoin de paraître non plus. Normalement, en habit de dimanche, nous sommes différents de la semaine, mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Quand nous sommes entre nous, nous pouvons être nous, chacun. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur du jugement des autres. Je répète cette formule que j'ai déjà placée plusieurs fois. Nous ne sommes tous qu'un ramassis de pécheurs graciés. Pour mettre chacun à l'aise, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surchrétien parmi nous. Nous sommes vraiment que des pécheurs graciés. Nous n'avons aucun mérite et c'est pour ça que chacun peut être, venir comme il est et ne pas soigner juste sa façade. Pour pouvoir veiller les uns sur les autres, il faut que nous soyons proches les uns des autres. Quand nous nous retrouvons juste, salut, ça va, et on repart, ce n'est pas la proximité qui nous permet vraiment de veiller les uns sur les autres. Nous ne veillons pas grâce à des caméras de surveillance. Aujourd'hui, ça, c'est le top. Pour veiller sur les grands festivals, même sur ce qui se passe dans les rues, on a des caméras partout et on a deux ou trois opérateurs ou plus derrière qui surveillent et puis on a des enregistrements. Mais ce n'est pas de ce genre de veille qu'il est question ici. C'est grâce à la communion fraternelle que nous pouvons nous connaître, partager nos hauts et nos bas, nos dons et nos vulnérabilités. Dire que là, j'y arrive pas. Soit l'autre y porte ou l'autre y m'apprend à porter. Ça, c'est veiller. Veiller, c'est monter la garde tour à tour. Hein. Quand on est dans la nature, de nuit, par exemple l'armée, ben, il y a des postes de garde, des gens qui restent éveillés et qui veillent au sommeil quand les autres se reposent. Ils veillent à ce que les autres puissent se reposer en toute tranquillité. C'est veiller, c'est avertir quand l'autre a tendance à aller vers une zone dangereuse. Attention, mon ami, le terrain devient glissant. Prévenir quand l'ennemi prépare un piège. Il y en a qui discernent avant les autres, là où il y a un piège. Une attaque. Veiller, c'est porter les autres dans la prière en tout temps. On n'est pas tout le temps à genoux ou assis quelque part à prier, mais le réflexe, quand le Seigneur nous montre quelqu'un, un besoin, aller immédiatement dans la prière. Père, regarde, il a besoin de toi. C'est aussi veiller. Le but de cette veille, nous exciter, nous stimuler, comme nous l'avons lu. Stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous pouvons veiller pour critiquer, pour dénoncer, et les effets sont dévastateurs. Ça, c'est l'humain. Hein, ça, c'est le côté charnel. Quand nous sommes ensemble, et t'as vu, t'as entendu, ce n'est pas édifiant. Et même quand l'autre a tendance à aller dans une zone dangereuse, aller vers lui et prévenir, ce n'est pas l'abattre, ce n'est pas le chasser. Notre veille doit être constructive, discerner les dons, encourager à avancer dans la foi, à participer à l'avancement du royaume de Dieu, à propager l'amour de Christ, à pratiquer les œuvres qui glorifient le Seigneur. Alors la force de l'Église ne dépend pas des moyens matériels. Je pense que vous êtes d'accord, dont elle dispose. C'est bien s'il y a des moyens matériels, nous sommes reconnaissants quand nous pouvons faire des choses pratiques, mais la vraie force de l'Église, elle réside dans l'amour qu'elle répand au travers de chacun de ses membres. Ça, c'est la plus grande force que l'Église a. Et là, le Saint-Esprit, il peut bénir. Humainement, nous vivons parfois, souvent même, des déceptions, des attentes non comblées, même dans l'Église, des visions divergentes. Nous avons entendu tout à l'heure parler de trahison. Et ça fait mal. des raisons de s'éloigner, de se retirer, de rester chez soi. Quand nous entendons certaines choses, quand nous sommes déçus, le premier réflexe, ah non, 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 moi, je me retire. C'est tout le contraire que de veiller les uns sur les autres. Le veiller, c'est être là malgré tout. N'abandonnez pas votre assemblée. Cette assemblée qui doit être un refuge. Notre assemblée doit être un refuge. Et j'espère que ceux qui viennent pour la première fois se sentent à l'aise. Et comme un refuge en haute montagne où dehors il fait froid, il y a de la neige ou le mauvais temps, on est tellement bien dans cette baraque où il fait bon vivre avec un bon repas de soir et ainsi de suite, où il y a de la chaleur, que notre assemblée soit cela, un refuge pour chacun, un lieu de ressourcement et d'expression de la grâce de Dieu. Quand nous venons, avons-nous l'attente d'être ressourcés et de rencontrer la grâce de Dieu au travers des autres. Nous sommes appelés à nous accrocher. Dans le psaume 73, j'aime souvent le citer, Asaph, quand il a fait le bilan des injustices qui semblaient triompher, à un moment il se ressaisit. Pendant des versets, il compte tout ce qui ne va pas, les autres semblent, ceux qui n'en demandent rien d'après Dieu, les méchants, ils semblent aller mieux que lui. Et il dit, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite, je ne laisse pas tomber. Et c'est là aussi que nous sommes appelés à aller au-delà de nos émotions. Je ne laisse pas tomber. D'énormes nuages sont en train de s'accumuler au-dessus de l'humanité actuellement. Que ce soit le climat, que ce soit les bruits de guerre. Et dans ce passage, il est question de rester attaché à l'Assemblée, car d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand on voit s'approcher le jour du Seigneur, nous croyons que le Seigneur est en train de nous préparer à son retour. Ce n'est vraiment pas le moment de dire tant pis, je laisse tomber. Mes amis, ce n'est pas le moment de baisser la garde, de s'assoupir, de laisser nos déceptions dicter notre avenir spirituel. Ce n'est vraiment pas le moment. Dans Proverbe 18, le verset 1 nous prévient « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Se tenir à l'écart, c'est tout de suite nous mettre en opposition avec ceux qui restent. Et c'est malsain. Après, on cherche, si je ne cherche que ce qui me plaît, et si chacun de vous fait la même chose, ce n'est pas une église, ce n'est pas une assemblée. C'est juste un groupe de personnes qui essayent de s'entendre plus ou moins et qui n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, on est quand même prévenu, déjà dans l'Ancien Testament, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Même s'il y a des sages décisions, si ça ne me convient pas à moi, si j'ai appris différemment, ben, je peux m'irriter ou alors dire, Seigneur, je te remets tout ça. À toi de gérer, c'est ton assemblée. Asaph, dont on a parlé tout à l'heure, a dû se faire violence pour ne pas jeter l'éponge. C'était vraiment sur le fil du rasoir, n'est-ce pas? Il y a des choix qui sont parfois déterminants. Envie de laisser tomber, il ne faut pas que l'ennemi puisse nous pousser à abandonner. Mais il faut se réfugier dans les bras du Père qui nous encourage à la persévérance. Abandonner l'assemblée mène souvent, à plus long terme, à abandonner la foi. Le passage sur le châtiment et ainsi de suite, c'est intercalé par rapport au... C'est pratiquement cité comme un péché. C'est intercalé dans l'explication là, de ne pas de rester fidèle et de continuer à persévérer. Donc, souvent, les personnes qui s'éloignent de l'Assemblée, bon, s'ils rejoignent une autre, tant mieux, mais s'ils s'éloignent complètement, ben, ils s'éloignent au fur et à mesure de Dieu et le monde reprend ses droits. Parce que le monde est prêt à engager, surtout des croyants qui étaient engagés, c'est des personnes qui sont fidèles. Donc le monde, il peut les aspirer et ils seront devant dans bien des associations, par exemple. La vie en Christ nous a donné un courage, une force pour avancer malgré les oppositions. Il n'a pas promis que tout baignerait, que tout irait bien. Nous pouvons progresser, malgré les oppositions, les railleries de ceux qui sont restés dans le monde. Et nous avons assez de ressources pour même venir en aide à nos frères et sœurs, dit l'auteur aux Hébreux. Vous avez été confrontés à l'opposition et vous avez même encore pu aider ceux qui étaient dans le même cas que vous. Nous sommes dans notre mission, au cœur de notre mission, quand nous partageons les fardeaux des opprimés, de ceux qui souffrent. Et notre contexte se voudrait sécuritaire, assurer l'avenir, même matériel, par un stock de biens matériels. Cela semble sage de prévoir, mais acceptez avec joie l'enlèvement de vos biens. Au verset 34, ça peut être un grand combat. Pour l'instant, Dieu ne nous demande pas de tout lâcher parce que le monde veut nous piquer tout cela, mais cela peut être un grand combat. Si cela se présente à nous, nous devons avoir conscience que les biens à venir sont éternels et durables. Ce que nous avons ici est voué à la destruction, hein, par le feu. Cherchez les choses d'en haut. Colossiens 3, 1 à 3 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. » Notre vraie assurance qu'il ne faut surtout pas abandonner, c'est comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nos noms sont inscrits sur son cœur, nos noms sont gravés sur ses mains. Ça, c'est notre assurance. Il nous tient. C'est lui notre garant. Christ a tout payé. Ne laissons pas nos soucis, nos émotions, nos attentes parfois erronées, nous éloigner de la présence du Père et de la présence de l'Assemblée. J'ai regardé, jetez sur lui tous vos soucis et ne jetez pas votre confiance. En allemand, il est dit « Werfet euer Vertrauen nicht weg ». Ne jetez pas ce à quoi vous faisiez confiance. Hein. Ne jetez pas ça. C'est trop important. Nous avons besoin de persévérer. Et dans le dictionnaire, persévérer veut dire demeurer ferme et constant dans une résolution. Ce n'est pas les aléas de la vie qui doivent nous faire changer d'avis sur l'essentiel. La résolution est là. Seigneur, je veux marcher avec toi, rester ferme. C'est le dictionnaire qui le dit. Quelle résolution ? Suivre Christ, accepter ses directives, lui faire confiance pour l'avenir, parce que l'avenir, pour les gens du monde, il est terrible. Quand on réalise ce qu'on entend aux infos, l'avenir, il peut nous écraser, mais nous pouvons regarder à Christ. Il tient notre avenir dans sa main. Il revient, il est dit ici, car nous voyons le jour qui s'approche, il revient. Et soyez sûrs, il n'aura pas de retard. Christ n'a pas de retard. Et un grand prix nous attend. Une fois encore, que personne ne se retire. Le berger aime les brebis qui le suivent. Quand les brebis sont fatiguées et qu'elles restent à l'arrière, le berger y revient. Mais si elles font demi-tour et elles partent, il leur laisse la liberté. Un bon berger connaît ses brebis et ses brebis entendent sa voix. Ne te retire pas, se retirer, c'est se perdre. Gardons la foi pour sauver notre âme. Et j'ai un dernier exemple dans l'Ancien Testament, quand Jacob s'est battu avec l'ange du Seigneur, il s'est accroché. Ah non, l'autre il pouvait faire ce qu'il voulait, il s'est accroché et il a dit « Je ne te lâcherai pas, il n'est pas question de te lâcher avant que tu ne me bénisses. Je veux ta bénédiction. » Et ça, c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Accroche-toi. Amen. Père, que ta parole résonne dans nos cœurs. Tu sais ce que chacun de nous pense par rapport à tes directives. Et nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions nous soumettre à ta volonté parce qu'elle est bonne, elle est parfaite. Et que notre assemblée soit bénie et soit source de bénédiction encore pour beaucoup. Seigneur, que nous puissions rayonner la grâce de Jésus. Amen.